VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Crise au Zimbabwe, l'organisation sous-régionale de l'Afrique australe, la SADC, se réunit aujourd'hui au Botswana pour une session extraordinaire consacrée à la situation au Zimbabwe où l'armée est maintenant aux commandes. Selon l'agence Reuters, qui cite une source politique bien informée à Harare, le président Robert Mugabe refuse de démissionner, comme le lui suggèrent les leaders militaires, pour assurer une transition en douceur du pouvoir à l'ex-vice-président Emmerson Mnangagwa, récemment limogé par le gouvernement zimbabwéen. Le président Mugabe affirme qu'il est le seul chef d'État légitime et il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir avant les élections prévues l'année prochaine. Les réactions se multiplient en Afrique après l'intervention des militaires zimbabwéens et leur décision d'assigner à résidence le président Robert Mugabe. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le Guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, a dénoncé ce qui apparaît à ses yeux comme un coup d'État au Zimbabwe et demandé aux militaires de se soumettre à la légalité constitutionnelle. Le président sud-africain Jacob Zuma, qui a dépêché deux médiateurs à Harare, s'est déclaré hostile à tout changement de régime inconstitutionnel. Le secrétaire général de l'ONU a lui appelé à la retenue. Antonio Guterres réclame le calme, la non-violence et de la retenue. L'Union européenne s'est dite préoccupée tout en appelant au dialogue en vue d'une résolution pacifique. Pour sa part, Theresa May, la première ministre de Grande-Bretagne, l'ancienne puissance coloniale, appelle les partis à éviter la violence et son ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a conseillé aux ressortissants britanniques de ne pas sortir. Washington, de son côté, appelle au calme et demande le recours aux moyens constitutionnels pour résoudre les différends. L'ambassade américaine a aussi demandé à ses citoyens de rester chez eux dans ce climat d'incertitude politique.
Zimbabwe toujours, le président Robert Mugabe est en résidence surveillée et l'armée affirme qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pour tenter de comprendre cette situation, dont le détonateur a été l'éviction du vice-président Emmerson Mnangagwa, Claire Morin-Gibourg s'est entretenue avec le rédacteur en chef de VOA Afrique, Idriss Fall, qui couvre l'Afrique australe depuis longtemps.
D'abord, c'est parti de la mise en garde sévère du chef de l'armée, le général Constantino Chiwenga, qui lundi, en fait, s'est levé pour dire qu'il faut que la purge cesse. On venait de limoger la semaine d'avant Emmerson Mnangagwa, le vice-président, qui était aussi, rappelons-le, un ancien ministre de la Défense et aussi un ancien chef des services secrets zimbabwéens. Donc ça s'est accéléré et le général a décidé de passer aux actes. Avant le limogeage de Mnangagwa, Joyce Mujuru, qui était l'ancienne vice-présidente, elle aussi, elle est passée à la table en 2014, il ne faudrait pas l'oublier. Donc il y a eu comme une série de limogeages de successeurs potentiels au président Mugabe et son épouse Grace Mugabe, qui est son ancienne assistante, qui a 52 ans, a affirmé la semaine dernière à Bulawayo dans un meeting que, en fait, elle est prête à succéder à son mari. Donc c'est généralement une lutte pour le pouvoir avec un président qui a 93 ans et qui s'est accéléré en fait.
Pourtant on disait que ce pays avait beaucoup de potentiel à son indépendance en 1980.
Absolument. En 1980, l'ancienne Rhodésie de M. Ian Smith devient un pays indépendant, nommé maintenant le Zimbabwe. Salisbury, l'ancienne capitale, devient Harare. Et c'est à la suite des accords dits de Lancaster House. Et M. Mugabe, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu beaucoup de sympathie parce qu'il a appelé à la réconciliation nationale. Il a permis à Ian Smith, un pays où un noir n'avait même pas le droit de marcher sur le même trottoir qu'un blanc, il a autorisé aux blancs de rester. Et même d'avoir une groupe parlementaire de blocage. Ça a rassuré beaucoup de gens. Le Zimbabwe était exportateur de produits agricoles à l'époque jusque vers les États-Unis. Le Zimbabwe avait l'un des systèmes sanitaires les plus développés sur le continent au nombre de médecins par habitant. Mais 20 ans après son indépendance, M. Mugabe a décidé de faire l'expropriation des terres des Blancs. Mais n'oublions pas que les accords de Lancaster House, il y avait eu une promesse faite par la Grande-Bretagne d'aider Mugabe à financer en fait cette expropriation, ce qui n'a jamais eu lieu pendant 20 ans. D'où quand il a commencé ses expropriations et donné ça à d'anciens combattants qui n'ont jamais conduit un tracteur, la communauté communauté internationale a tapé du poing sur la table. Il n'y a plus d'exportation agricole. Le système sanitaire, tous les médecins ont fui vers l'Afrique du Sud et l'Australie. Et le résultat est là, l'économie est par terre.
Idriss Fall, rédacteur en chef de VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En RCA, le FPRC, Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, à la tête d'une coalition de groupes armés, suspend sa participation au programme de DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Les détails avec Eddy Issango.
Le leader du FPRC, Nourridine Adam, indique que les bureaux politiques de son groupe armé suspendent toutes les négociations en cours avec les gouvernements et retirent ses représentants du comité chargé du DDR. Un de ses proches, Fadoul Bachar, accuse le gouvernement d'être incapable de sécuriser la population, même dans la capitale, Bangui. Le FPRC s'est dit être exacerbé après les dernières violences qui ont fait au moins 7 morts et plus de 20 blessés aux abords du quartier musulman du PK5. Ce groupe armé s'était déjà opposé dimanche à l'installation de nouveaux préfets dans le nord du pays. Position également adoptée par les mouvements pour la Centrafrique, ce que la MINUSCA juge pourtant inacceptable. Hier, les conseils de sécurité ont adopté à l'unanimité une résolution reconduisant pour un an les mandats de la mission onusienne avec 900 casquets bleus supplémentaires.
En Angola, le nouveau président João Lourenço a limogé mercredi la fille de José Eduardo dos Santos, son prédécesseur à la tête de l'État. Isabel dos Santos dirigeait la compagnie pétrolière nationale Morgan Guilliec.
Cette éviction est un geste fort de João Lourenço, qui a promis à plusieurs reprises de rompre avec l'héritage de son prédécesseur. Surnommée la princesse, Isabel dos Santos, 44 ans, avait pris en 2016 la direction de la Sonangol, la compagnie nationale de pétrole, en pleine turbulence depuis la chute du prix du baril du brut. La nomination de celle que le magazine Forbes présente comme la femme la plus riche d'Afrique avait suscité de vives critiques des adversaires de son père, accusés d'avoir privatisé l'économie du pays au bénéfice de ses proches. Successeur de M. dos Santos, João Lourenço, a pris les rênes du pays en septembre après la victoire du parti au pouvoir aux élections générales d'août 2017. À la veille de sa victoire, l'ancien ministre de la Défense, âgé de 63 ans, avait proclamé « Personne ne sera au-dessus des lois ».
Au Nigeria, attaque meurtrière à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. 4 kamikazes, 2 hommes et 2 femmes, se sont fait exploser dans le quartier de Mouna, d'après l'agence de gestion des urgences. Au total, 18 personnes, dont les 4 kamikazes, ont été tuées et 29 autres blessées. Soudan, le secrétaire d'État américain adjoint John Sullivan a eu des consultations ce jeudi avec des responsables soudanais à Khartoum au début de sa visite de 2 jours dans le pays. La première effectuée par un officiel américain de ce rang depuis la levée par les États-Unis le mois dernier de l'embargo contre le Soudan. Washington a décidé en octobre de lever certaines sanctions imposées depuis 1997, mais l'administration Trump a maintenu le Soudan dans sa liste des États soutenant le terrorisme. Khartoum cherche à convaincre Washington de retirer le Soudan de cette liste, d'où l'extrême importance de la visite du secrétaire d'État adjoint Sullivan pour Khartoum, a indiqué un haut responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères, Abdel Ghani El Naïm. Et pour terminer, actualité aux États-Unis, les États-Unis, le pays le plus riche au monde, compte plus de 4 millions d'enfants et de jeunes adultes qui sont sans abri. C'est ce que révèle une étude publiée hier par l'Université de Chicago sur Angina Moulissa.
Les chercheurs de l'Université de Chicago ont appliqué une définition au sens large du terme de sans-abri, incluant les personnes vivant dans la rue, dans des refuges et celles restant temporairement chez des tiers, faute d'avoir leur propre logement. Matthew Morton a expliqué que cette étude a pour objectif de donner aux Américains, pour la première fois, une vision plus complète des jeunes sans-abri dans ce pays. Ainsi, 700 000 adolescents de 13 à 17 ans sont sans domicile fixe et 3,5 millions de jeunes âgés de 18 à 25 ans. De nombreux jeunes ont indiqué être sans-abri pour la première fois. Les Noirs et les Hispaniques sont les plus exposés, ainsi que les homosexuels et transgenres. Les chercheurs de Chicago estiment que les résultats de leur étude pourraient aider les autorités à appréhender le problème pour une action rapide. L'étude a également établi que le taux de jeunes sans-abri est similaire dans les zones urbaines et celles rurales, même s'ils sont moins visibles dans les campagnes américaines.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.